Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, c'est ma première prédication. Voilà, un peu stressé, mais ça va. Du coup, on continue sur le texte de Jacques, là au chapitre, fin du chapitre 4 et début du chapitre 5. Alors déjà, pour ceux qui n'étaient pas là, qu'est-ce que l'épître de Jacques ? C'est une lettre qui a été adressée aux églises dispersées. Après de la persécution, les églises sont dispersées. Et du coup, Jacques, qui est supposé être le frère de Jésus, a envoyé des lettres à toutes ces églises. Et voilà, du coup, je vous propose qu'on passe à la lecture du texte. Je ne sais pas. Est-ce que ça fonctionne ? Oui. On va parler d'argent. Voilà. Alors, je vais lire le texte. Alors, tac. Et maintenant, vous, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année et nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve ? Qu'est-ce que votre vie ? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Oui, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui êtes riches, pleurez et lamentez-vous au sujet des malheurs qui vont fondre sur vous. Votre richesse est pourrie et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont corrodés et cette corrosion témoignera contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez entassé des richesses dans ces jours de la faim. Vous n'avez pas payé leur juste salaire aux ouvriers qui ont moissonné vos champs. Cette injustice crie contre vous et le clameur des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées célestes. Vous avez vécu ici-bas dans les plaisirs et le luxe. Vous êtes engraissés comme des animaux pour le jour où vous allez être égorgés. Vous avez condamné, vous avez assassiné des innocents sans qu'ils vous résistent. Voilà, un texte un peu dur sur les riches et je vais faire une petite précision là-dessus parce que c'est quand même ma première prédication et je n'ai pas choisi le texte et c'est quand même le punk de l'église qui va vous parler d'argent et de richesse. Je trouvais ça drôle. Mais je pense que la Bible n'est pas contre les riches. On le voit par exemple quand on regarde Abraham qui était quelqu'un de pieux et qui suivait Dieu, et Dieu l'a pourvu de beaucoup de richesses. On voit même dans le psaume 112 qu'il est dit que l'abondance et la richesse sont dans la maison de l'homme approuvé par Dieu. On voit aussi, on pourrait dire c'est dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament aussi, on voit par exemple Joseph d'Arimathie qui a donné son tombeau à Jésus pour qu'il soit enseveli, ou alors même Lydia, une marchande d'étoffes pourpres qui a accueilli Paul et ses apôtres et qui est décrit comme quelqu'un qui suit la volonté de Dieu. Donc je pense que la question dans la Bible, ce n'est pas pauvre ou pas pauvre, mais plutôt l'important, c'est de faire la volonté de Dieu avec les richesses que Dieu nous donne. Voilà. Sans rentrer aussi dans l'église à prospérité, je pense qu'il y a aussi beaucoup de pauvres dans la Bible. Et que même Jésus, il dit que c'est une malédiction d'être riche, que c'est plus dur pour un riche d'aller au royaume des cieux que d'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Alors voilà, c'est quand même cool d'être pauvre aussi. Bon. Du coup, passons particulièrement à notre texte. Du coup, Jacques oppose deux affirmations. La première, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Aujourd'hui, on pourrait dire bah, je ferai des études, je deviendrai chercheur, architecte ou plombier ou même cosmonaute et je gagnerai bien ma vie. Ou alors on pourrait dire je travaillerai dur, j'aurai telle ou telle promotion et je pourvoirai plus facilement aux besoins de ma famille. Ou bien encore même je monterai une entreprise, je me démarquerai de la concurrence et je pourrai vivre de cela. C'est des affirmations qui n'ont pas l'air mal comme ça en soi, mais Jacques nous incite vivement à dire si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Alors, qu'est-ce qui diffère entre ces deux affirmations ? Ben, je pense principalement que c'est l'objectif. L'objectif de la première affirmation qui est focalisé sur l'argent. Nous faisons ceci ou cela pour faire de l'argent. Et la deuxième sur la volonté de Dieu. D'abord, c'est quoi la volonté de Dieu ? La volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut, tout simplement. Et ce que Dieu veut, c'est les commandements qu'il nous a donnés. Aimer Dieu et aimer son prochain. Et globalement, je pense que c'est ce qui est le mieux pour toi et même pour le monde de faire cette volonté-là. Du coup, Dieu a mis en toi des talents, des capacités, un capital. Il t'a donné la possibilité de faire le bien, faire sa volonté. Mais avec ceci, quel projet envisages-tu ? Les utilises-tu pour envisager des projets motivés par l'argent ou alors à aider ton prochain et à glorifier Dieu par tes actions. Du coup, ce serait un peu comme dire que Dieu t'a donné peut-être de l'intelligence pour faire des études, la force pour gravir des échelons d'une entreprise ou le courage de monter une entreprise, mais pour qui fais-tu cela ? Dieu t'a donné des capacités, et comment les utilises-tu ? Et on pourrait se dire, oui, mais je ne fais pas forcément la volonté de Dieu, mais je ne fais pas le mal non plus, je ne fais de mal à personne. Mais Jacques nous répond que celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Alors, dans cette première partie, je pense que Jacques nous invite à ce que dans nos projections, on mette Dieu dans l'équation, et même comme élément essentiel de l'équation. Il y a quelques années, peut-être trois ans pour moi, c'est longtemps. Et j'étais à un camp chrétien à Font la Forme, qui est un camp de formation biblique du GBU. Et quelqu'un nous avait dit que l'équivalent chrétien de Inch'Allah, ce serait sous réserve de Jacques 4,15. Alors, ça m'avait bien fait bien rire, mais je ne connais pas exactement ce que veut dire Inch'Allah et tout ce que ça implique, mais en tout cas, de mettre cette sous-réserve de Jacques 4,15, donc c'est la deuxième affirmation, si le Seigneur veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela, dans toutes nos équations. Et même en priorité, comme quelque chose qui va guider tout ce que nous allons faire. Parce qu'au final, comme il dit, nous sommes qu'une brume, nous sommes rien. Et face à tout ça, au lieu de se baser sur ses propres prédictions, tout ça, prendre en équation que c'est Dieu qui gère, et que c'est Dieu qui sait, et c'est sa volonté que nous devons faire. Du coup, voilà. Et passons à la deuxième partie. Donc, à vous maintenant les riches. Alors, pourquoi les riches ? Je pense que c'est un bon exemple de personnes qui, au lieu de faire la volonté de Dieu, ont cherché à faire de l'argent. Et de voir quelles conséquences. Parce qu'autant quand on est pauvre, ça n'a pas peut-être moins de conséquences, mais quand on est riche et des responsabilités. Je pense que là, ce qui est reproché aux riches, c'est que d'avoir des richesses pourries. Alors, ce terme, richesse pourrie, corrodé par limite, je ne sais plus trop ce que c'est, enfin bref, voilà, vous avez compris. Oui, et vos vêtements sont rongés par des mythes. Je pense qu'il fait directement allusion à Matthieu, sur le sermon sur la montagne. Alors, on l'a déjà dit, Jacques se base beaucoup sur le sermon sur la montagne. Et Jésus, à un moment, dit cela. Donc, le sermon sur la montagne, c'est Jésus qui enseigne, voilà, dans la Bible. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent, qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Du coup, je pense qu'il a pris directement cette expression des richesses qui sont à la merci des mythes et qui rongent à Jésus. Tout ça pour dire que je pense que si c'est cela qui leur est reproché, la bonne attitude à avoir, ce serait d'amasser plutôt des trésors qui sont dans le ciel. Mais du coup, c'est quoi ces richesses pourries et c'est quoi des trésors dans le ciel ? Alors, je pense que les richesses pourries, les richesses ça met l'accent sur le côté éphémère, le côté, au final, c'est pas grand-chose. On pourrait se dire, même gagner de l'argent avec un bon métier, au final, avec le temps, c'est quoi ? C'est pas grand-chose. Peut-être qu'on le donnera à la descendance, mais bon, même ça, au bout d'un moment, tout cet argent va dépérir. Ou même des bâtiments gigantesques. Souvent, je me balade au Puy de Chanturgue. Et à un endroit, il y a un temple, un ancien temple romain, totalement ensouveli, il n'y a plus rien, c'est même plus entretenu, il n'y a rien. Et je me dis, putain, ces gens, quand ils ont construit ça, ils ont dû se dire, ouais, ça va durer longtemps, on va se faire une bonne réputation, ça va être quelque chose, une richesse qui dure. Au final, pas tant que ça. Je pense que c'est parce qu'on est un peu focalisé sur notre vision de voir les choses, le temps, parce que c'est rien, ça va dépérir. Que vous le passiez à votre descendance ou que vous la construisiez vous-même. Et du coup, je pense que Jésus nous invite plutôt à amasser des trésors dans le ciel. Alors du coup, ce serait quoi les trésors dans le ciel ? Je pense que c'est tout ce qui va participer au royaume de Dieu, celui qui va durer tout le temps. C'est-à-dire faire sa volonté, c'est-à-dire aimer son prochain et aimer Dieu. Ce serait par exemple, aider son voisin à déménager juste comme ça, alors qu'il a été désagréable. Ce serait peut-être donner de l'argent à un SDF qui en a vraiment besoin. Et tout ça, c'est des bonnes actions qui ne vous sera pas enlevé. Dieu, il les connaît, il les sait, et c'est ces bonnes actions qui vont vraiment durer. Ou ce serait même, justement, bien gérer son argent. Acheter, des produits ou des vêtements plus éco-responsables et respectueux du droit du travail et de l'environnement, si on en a les moyens. C'est des choses qui sont peut-être pas des richesses comme ça accumulées comme on le voit, mais je pense que c'est ça les réelles richesses qui vont durer dans le temps. Et là, il prend un autre exemple d'une conséquence d'être riche, c'est les moissonneurs. C'est qu'en visant la richesse, on en oublie qu'il faut aimer les gens, et en favorisant la richesse, on les exploite. Parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas leur bonheur, ce n'est pas ce qu'ils aiment, c'est l'argent. Ce serait par exemple de dire « j'ai réussi mon entreprise ». Mais la concurrence est dure à vaincre. Et Du coup, je me dis, bon, je vais baisser le salaire de mes employés pour pouvoir mieux me développer. Oui, mais c'est qu'est-ce que tu recherches par cela? Est-ce que tu recherches réellement le bien de tes employés ou alors l'argent? Je pense que on peut voir cet exemple dans des grands de ce monde, Amazon ou comme ça, qui, pour se faire plus de profit, baissent les salaires au minimum et du coup, beaucoup de gens sont pas payés à leur juste valeur. Mais du coup, c'est des questions à se poser. Où est-ce que je veux investir? Et c'est la fin du sermon sur la montagne. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est si on met notre cœur dans les richesses, eh ben, enfin, si on cherche les richesses, ce sera là où sera notre cœur. Mais du coup, je pense que le problème, c'est pas vraiment le fait d'être riche, mais c'est vraiment qu'avec les richesses que Dieu nous donne, prendre les richesses comme un moyen, mais pas un moyen de se faire plus d'argent, un moyen de servir mieux Dieu. Du coup, bon, je serai un peu court, mais en conclusion, je dirais que nous qui sommes pauvres et exploités, la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il entendra justice. Il entendra nos cris et justice sera faite. Mais à nous qui sommes riches, parce que oui, comparé au reste du monde, nous sommes riches, c'est où est-ce que nous plaçons les richesses que Dieu nous donne? À qui est-ce que ça profite? Et est-ce qu'on le met dans des richesses qui passent, qui sont vaines? Ou alors dans des projets, des choses qui rendent gloire à Dieu, qui participent à ce qu'on s'aime tous les uns les autres, et de prendre soin de l'œuvre de Dieu, et de par cela glorifier Dieu. Donc voilà, désolé, c'était un peu court, un peu bafoué, mais voilà, c'était ma prédication.